Le cierge de Rocamadour. Dans l'église de Rocamadour, la Mère de Dieu a fait tant de miracles qu'on en a écrit tout un livre. Je l'ai lu bien souvent, et parmi les plus beaux, en voici un que je veux raconter, parce qu'il montre jusqu'où peut aller la courtoisie de Notre-Dame. Il y avait, en ce temps-là, un jongleur très fameux, nommé Pierre de Siglar, qui, d'un bout de l'année à l'autre, allait de moutier en moutier, chantant la gloire de la Vierge Marie. Se pouvait-il qu'au moins une fois dans sa vie, il ne passât par le sanctuaire où, depuis les jours les plus lointains, une image de la Mère de Dieu, la plus belle que vous puissiez voir, attire de tous les coins du monde un peuple immense à ses pieds? Il y passa donc une fois. C'était au soir d'une chaude journée. Il avait fait un long voyage, il avait faim, il avait soif, et ce n'était pas sans envie d'entrer se rafraîchir qu'il regardait tout le long de la rue se balancer au-dessus de sa tête les belles enseignes des auberges. Car jamais bonne soupe et bon vin n'ont été méprisés par les ménestrels, vielleurs, jongleurs et autres gens de cette espèce. Lui-même, tout dévot qu'il fût, ne méprisait pas la bouteille. Mais il était venu visiter la vraie hôtesse de l'endroit, Notre-Dame Sainte Marie, mal appris s'il n'allait d'abord se prosterner devant sa seigneurie. L'église était toute remplie de pèlerins agenouillés, les yeux levés vers l'image qui brillait au fond de la nef parmi les cierges allumés. Humblement, lui aussi, le jongleur s'agenouille, et son ode terminée, il tire de sa gaine de cuir la vielle pendue à son épaule, passe son archet sur les cordes et fait si bien sonner son instrument que chacun l'écoute en silence avec ravissement. Admirant en soi-même qu'une simple baguette promenée sur trois cordes puisse émouvoir si fort le cœur. Puis, quand il eut loué longtemps et de toute son âme celle pour laquelle il était venu, il s'écria d'une voix forte : Ô Mère de Dieu qui tout créa, si quelque chose t'a plu dans ma chanson, je te demande en récompense de me donner un de ces cierges qui brûlent là-haut près de toi en si grand nombre que de ma vie, ni de près ni de loin, je n'en ai vu davantage. Dame sans pareil et sans peur, donne-le-moi, je t'en supplie, pour m'éclairer dans mon auberge et faire la fête de mon souper. Je ne te demande rien d'autre, si vrai que Dieu m'entend. » Notre-Dame de Rocamadour, qui est fontaine de courtoisie, ruisseau et source de douceur, écouta sa prière, et aussitôt on vit s'envoler comme un oiseau et venir se poser sur la vielle le plus beau, le plus blanc des cierges qui faisait autour de sa tête une couronne de lumière, et les pèlerins de s'ébahir et de chanter « Noël, Noël !» Mais un moine du nom de Girard. Pour sa grande confusion, l'histoire a retenu comment il s'appelait. Homme fielleux et mélancolique, et qui tirait quelque profit des bouts de cierge qu'il vendait, se mit en fureur et cria « C'est un sorcier, un gueux à mettre à la potence !» Ce disant, il saisit le cierge et va le replanter là-haut, à la place d'où il était parti. Retourné par ces mots, la foule se prend à murmurer « Si le sacristain disait vrai, et si ce beau vielleur n'était qu'un envoyé du malin ?» Pierre écoute et ne souffle mot, car il est trop fin et trop sage pour s'indigner des injures d'un pauvre sot. Et que lui font tous ces murmures? La Mère de Dieu l'a entendu, elle a exaucé sa prière. Peut-il demander davantage? Son âme est remplie d'allégresse, des larmes coulent sur ses joues. En silence, il prie Notre-Dame, et longuement la remercie. Puis, reprenant sa vielle, il improvise un si beau chant qu'il n'en est pas au monde que vous eussiez écouté plus volontiers. Et quand il eut fini, le cierge, quittant son chandelier, revint se poser sur sa vielle, comme chacun put le voir de ses yeux. Alors, plus prompt que chèvre ou vieux bouc encorné, le furieux sacristain bondit au milieu de la foule et, suffoqué par la colère, demeure quelque temps sans parole. Puis, rejetant son capuchon, « Jamais de mon vivant, dit-il à Pierre, le poing tendu, je ne vis telle enchanterie. » Et de nouveau, s'emparant du cierge, il s'élance vers l'autel, le plante sur le chandelier, l'attache avec un lien de fer, et cela fait ses cris. « Simon le magicien n'était rien près de toi, si tu le fais encore descendre. » Les mois redoublent dans l'église, les uns tenant pour le jongleur et les autres pour ce Gérard. Mais le jongleur, durant sa vie, avait vu de près ou de loin trop de fous et de sages pour se soucier de tous ces gens. Son cœur, trempé comme un bon fer, ne se laisse entamer ni par les uns ni par les autres. Et d'ailleurs, n'est-il pas certain que, puisque Notre-Dame a daigné se plaire à sa chanson, elle va arranger toute l'affaire à son honneur? Il reprend donc sa mélodie. Il soupire, il pleure, il implore. Il n'a plus ses doigts sur la vielle, et pourtant, sans toucher les cordes, il en tire des sons si touchants qu'il vient des larmes à tous les yeux. Sa bouche chante et son cœur prie, et sa prière et sa chanson s'en vont ensemble jusqu'au ciel. Alors, pour la troisième fois, éblouissant comme une épée dont la pointe serait une flamme, le cierge fit un grand saut dans l'air pour venir se poser sur la vieille. Tandis que les cloches de l'église se mirent à sonner d'elles-mêmes avec un si grand bruit que si Dieu le Père avait tonné, vous ne l'auriez pas entendu. Alléluia, alléluia! Ils auraient eu le cœur bien dur s'ils n'avaient pas été émus, ceux qui virent alors le jongleur monter les marches de l'autel, tenant le cierge dans sa main pour le remettre à la Vierge Marie, car c'eût été fait de vilain de l'emporter dans une auberge. Une faveur si éclatante ne rendit Pierre de Siglar ni moins courtois ni moins sage. Aussi longtemps qu'il fut en vie, pas une année il ne manqua de venir à Rocamadour apporter à la Mère de Dieu un cierge tout pareil par la dimension et le poids à celui qu'elle lui avait donné. Et le jour de sa mort, il arriva au paradis, précédé de tous les beaux cierges qu'il avait allumés, et comme on pense bien, venait en tête le plus beau, celui de Notre-Dame. Moralité, si à Dieu nous voulons plaire, ne nous efforçons pas de braire. Il ne dit bien, ni bien ne chante, qui tout son cœur en Dieu ne plante, et quand l'homme est de bonne vie, sa voix rejoint la mélodie des anges célébrant sans fin Jésus et sa mère au cœur fin. Du chevalier qui par jeu faillit perdre sa femme. Le conte dit qu'un chevalier aimait sa femme tendrement et que celle-ci, étant sur le point d'être mère pour la première fois, il fit le vœu de se lever chaque nuit à matine pendant une neuvaine pour aller dire dans sa chapelle 10 Ave devant Notre-Dame. Or, le jour même où il devait commencer sa neuvaine, comme il se disposait à partir pour la chasse, sa femme, que son état rendait un peu jalouse, lui demanda si tous les sentiments qu'il disait avoir pour elle le rendaient insensible à la beauté des autres femmes. Et, répondit-il en riant, car au contraire de beaucoup d'amoureux que leur passion rend triste et enfermée en eux-mêmes, il était enjoué et même plaisantait volontiers ce qui lui tenait le plus au cœur. Croyez-vous donc que vous m'avez aveuglé d'amour à ce point, que je n'ai Dieu que pour vous seul ?» Il se mit à lui citer quelques dames, dont il vantait par jeu l'oreille de celle-ci, le teint de celle-là, les dents de la troisième, sans se rendre compte du dépit qu'en éprouvait la pauvre femme. Puis se rappelant tout à coup son vœu à Notre-Dame, « Et il y en est une, ajouta-t-il, dont je ne veux point vous dire le nom, et que vous n'avez jamais vue, que je chéris par-dessus toutes. » « Ah !» dit la dame courroucée, « si je croyais ce que vous dites, vous voyez ce couteau ?» Et se disant, elle tira le couteau qu'il portait à la ceinture. « Je m'en percerai sur le champ. »« Doucement, fit-il, je ne puis croire que vous vous frapperiez, même si ce que je vous dis était vrai. » Si vous m'en donniez quelques preuves, je le ferais incontinent. Par bonheur, vous n'en connaissez que ce que je vous dis. Et bien folle est la femme qui se fie au dire d'un mari, même s'il s'est vanté de lui être infidèle, car il peut arriver qu'en excitant sa jalousie, il espère s'en faire aimer davantage. Avez-vous donc besoin de tels artifices avec moi ? Non, certes, répondit le railleur. Aussi, je vous prie d'oublier ce que je vous ai dit, que ce soit mensonge ou vérité. » Sur ces mots, il appela ses chiens et partit pour la chasse sans plus songer à son propos. Mais sa femme, restée seule, continua d'y penser, ressassant dans son esprit les divers avantages de ses rivales prétendues. Et si elle trouvait à chacune un défaut qui la rassurait, au besoin, elle en inventait. Elle se débattait vainement contre cet inconnu dont son mari avait caché le nom et qu'il disait chérir plus que tout au monde. Mieux avisée, elle eût pensé qu'entre toutes les femmes, Notre-Dame l'emporte en beauté et que la préférée même à elle, c'était se montrer bon chrétien. Par malheur, cette idée ne lui vint pas, et plus le jour avançait, plus le chagrin la travaillait. Elle finit pourtant par s'endormir et d'un si profond sommeil qu'elle n'entendit pas son mari quand il revint le soir dans sa chambre. Content de la voir en repos sans l'éveiller, il s'étendit près d'elle et s'endormit à son tour. Puis, à l'heure de matine, il se leva le plus doucement qu'il put et se rendit à la chapelle faire sa neuvaine à Notre-Dame comme il l'avait promis. Peu après, sa femme s'éveilla. L'angoisse sur laquelle le sommeil l'avait prise, lui saisit le cœur de nouveau. Et ne voyant pas son mari auprès d'elle, elle ne douta pas un instant qu'il ne s'en fût allé trouver quelqu'une des beautés dont il avait parlé. La lune éclairait le couteau que son mari avait laissé avec sa ceinture sur la table. À cette vue, perdant l'esprit, elle s'en saisit et s'en frappe de toute la force de son bras. Je laisse à penser la douleur du pieux servant de Notre-Dame qu'en revenant de la chapelle, il trouva sa femme étendue avec ce couteau dans le cœur. « Ah !» disait-il en l'embrassant, « c'est ma faute, c'est moi qui l'ai tué. Ô Vierge Sainte, ô Dame, Dieu, vous dont la puissance peut tout contre ma faute et mon malheur, ô Dame de toute charité, je vous prends à témoin qu'hormis vous, je n'ai jamais aimé qu'elle et que j'ai gardé mon cœur pur de tout coupable désir. Voici pourtant qu'elle n'est plus et sa mort me tue à mon tour. Ne suis-je pas mort en effet puisque la meilleure part de moi est morte? Jamais personne n'a tant souffert de la blessure d'une autre. Que dis-je d'une autre? N'étions-nous pas un seul corps et une seule âme? Ah, qui me guérira? Mais non, je ne veux point guérir. Ô Vierge, ô Reine toute-puissante, qui n'avez jamais méprisé ceux qui mettent leur confiance en vous, achevez-la tout de suite plutôt que la laisser souffrir, et achevez-moi avec elle, ou bien rendez-moi à la vie. De tout mon cœur, je m'en remets à votre jugement. Vous qui pesez toutes les choses dans votre balance de pitié, ne me condamnez pas sur la sotte parole que j'ai dite, puisque vous savez mieux que personne qu'en tout cela je n'ai péché que par imprudence et sottise. » Longtemps encore il gémit de la sorte, adjurant toujours Notre-Dame. Attirés par ses cris, les gens de la maison l'écoutaient consternés et regardaient en pleurant leur maîtresse, sans qu'aucun prît sur lui de retirer le couteau dont elle s'était frappée, de peur que si on l'enlevait, elle rendait le dernier soupir. Retenu par la même crainte, le meurtrier, sans le vouloir, à qui la peine et le remords avaient ôté tout courage, ne l'osait pas non plus. Mais, se ressaisissant soudain et s'en remettant à Notre-Dame, il prend le couteau par le manche et l'arrache d'un coup aussi fort que celui qui l'avait enfoncé. Sa femme alors ouvrit les yeux et, regardant, sans paraître autrement étonnée, tous les gens autour d'elle et son mari agenouillé avec la lame en sanglotée, « Très cher sire, lui dit-elle, pardonnez-moi l'offense que je viens de vous faire, à vous et à la très sainte Mère de Dieu. Certes, vous m'aviez dit que vous aviez une amie plus belle et que vous chérissiez plus que moi, mais vous le disiez non sans raison. Je connais maintenant son nom et son visage. Je l'ai vue de mes yeux pendant que vous vous lamentiez, prier elle-même son divin Fils d'oublier ma folie et de vous prendre en compassion pour l'amour que vous avez d'elle. Continuez donc de la servir mieux que vous ne le fîtes jamais, et moi de même je ferai. » Sur ces mots, elle se leva, comme si rien n'était arrivé, et après qu'elle eut embrassé tous ceux qui étaient là, et d'abord son mari, tous deux se rendirent à la chapelle, afin de demander pardon à Notre-Dame, lui d'avoir sottement induit sa femme en jalousie et elle d'avoir oublié qu'il existe une femme qu'on doit aimer plus que toutes les autres au monde. Ce conte est écrit dans un livre qu'il faut tenir pour véridique, car l'auteur n'y rapporte rien qu'il n'ait vu de ses yeux et fait consigner par notaire, et ce qui, mieux encore qu'un écrit, en atteste la véracité, c'est l'image de cire dont le chevalier et sa femme firent don au sanctuaire le plus proche, et le couteau qu'on y put voir longtemps au milieu des ex-voto. Mais ni utile, ni témoin, ni notaire, ni image de cire, ni couteau, n'est-il pas vrai que jalousie fait des blessures mortelles? Aussi, chrétiens, gardez-vous bien d'exciter un tel sentiment dans le cœur de ceux que vous aimez, surtout comme dans le cas présent, quand ce n'est qu'artifice pour vous faire aimer davantage. Coups de couteau sont inutiles, le mal est là, la plaie ouverte, l'ivraie envahit tout le champ, et il ne faut pas moins d'un miracle pour défaire ce qu'un mot a fait. La folle sacristine. Le plus grand triomphe du diable est de damner une âme pure. Mais sa plus constante ennemie, qui est, comme on sait, Notre-Dame, n'a cessé de lui arracher cette gloire détestable, et pour cela rien ne lui coûte, pas même de quitter les délices du ciel, ainsi qu'on va le voir par ce conte, le plus véridique qui fut jamais. Il y avait, dans une abbaye, une fille de très sainte vie, qui n'avait le cœur qu'à bien faire, à honorer Dieu et ses saints, et par-dessus tout Notre-Dame, qui la tenait pour son amie. Toute jeunette encore, de corps bien fait et les traits fins, elle était si plaisante à voir, et en tout ce qu'elle faisait si nette et si pleine de soins, qu'on n'en aurait trouvé aucune autre meilleure pour sacristine du Moutier. Et sacristine, en effet, elle était. Or, un jour, qu'après un office, elle vaquait dans la sacristie aux choses de sa charge, pliant et rangeant dans l'armoire les linges et les objets sacrés, elle vit tout à coup à ses pieds un jeune homme aussi beau qu'elle était elle-même. Le comte dit « C'était le diable. Je le crois, moi aussi. Et quel autre que celui qui peut s'introduire par malice jusque dans l'eau bénite, eût pu franchir les portes du couvent pour troubler cette âme innocente. » D'une voix qui rappelle par sa musique enchanteresse qu'il fut jadis un ange au ciel, il se mit à lui tenir des propos tout pareils à ceux que le serpent fit à Ève pour la convaincre que le bonheur qu'elle avait cru trouver jusqu'ici dans son état n'était rien à côté de celui qui l'attendait ailleurs. Vieux mensonge, et qui prend toujours, car, contrairement à ce qu'on croit, le diable manque d'imagination, ou plutôt les pauvres hommes, et les femmes aussi, sont si faciles à duper qu'ils n'éprouvent même pas le besoin de changer de chanson. Une fois de plus, l'air et la chanson eurent leur effet accoutumé. Oublieuse des vœux qu'elle avait faits, la folle sacristine laissa là son couvent, son cilice, la vêture de son état et tous les menus soins de sa charge pour s'engager sur un chemin au rebours de celui qu'elle avait suivi jusque-là entre la règle et son bon ange. Combien de temps dura cette vie de péché? 2 ans? 3 ans? Nul ne le sait. Il n'importe d'ailleurs. Un seul jour, c'était déjà trop. Mais le conte nous dit qu'au milieu de ces égarements, pas un soir la nonne apostate n'oublia, avant de s'endormir, de faire son salut à Marie en lui récitant un ave. Ce qu'ayant su, Dieu sait comment, ses amis, c'est plutôt ses ennemis qu'il faudrait dire, se mirent à l'accabler à l'envi de quolibets blasphématoires. « Hélas, hélas !» leur dit-elle, « comme vous m'insultez à bon droit, c'est bien ma juste récompense pour avoir failli à l'honneur que je tenais de Notre-Dame. Mais loué soit son divin fils, elle n'est ni morte ni malade, et si je viens à meilleure vie, elle peut me secourir encore. » Sur ces mots, elle planta là ses mauvais compagnons si prestement qu'aucun n'eut le temps de la retenir. Toute la nuit, elle courut, encore plus troublée que le jour où elle avait quitté son couvent. Mais c'était clarté cette fois et non ténèbres qui l'entouraient. Et au matin, elle aperçut dans le creux d'un vallon les murs d'une blanche abbaye. Elle y va. Elle frappe à la porte, demande à voir l'abbé, tombe en pleurs à ses pieds, s'accuse, s'humilie et finalement lui demande si rien pourra jamais effacer la folle vie qu'elle a menée. « Belle amie, répondit l'abbé, qui était âgé et prud'homme, il n'est bonne action sur la terre qui ne trouve au ciel sa récompense, ni mauvaise qui n'ait son pardon. Retournez à votre couvent et demandez merci à vos sœurs. « Ah, sire, répliqua la nonna, qu'il plaise à votre charité de me donner une autre récompense, une autre pénitence. Je suis de ce pays. J'ai là-bas mon père et ma mère, ma laide fuite. Y est connue, chacun me montrera du doigt. Celles qui jadis étaient mes sœurs ne voudront pas me recevoir. Ah, plutôt la mort 1000 fois que retourner à ce moutier. Ma fille, repartit l'abbé. Vous ne trouviez, il n'y a qu'un instant, aucune pénitence assez dure. Faites comme j'ai dit, et bien vous en arrivera. Ainsi ferai-je donc, soupira la nonna, et s'arrachant les cheveux à poignets et se déchirant le visage, tant la démarche lui coûtait, elle prit le chemin du couvent. Quand elle arriva au village près duquel s'élevait l'abbaye, où elle avait connu naguère une félicité si parfaite, la nuit était presque tombée. Pensa-t-elle qu'il était trop tard pour aller frapper à la porte, ou bien est-ce qu'au dernier moment elle sentit son cœur défaillir? Au lieu de se rendre au monastère, elle alla demander asile à une bonne femme qui, sans la reconnaître, ses yeux n'étaient pas des meilleurs, l'accueillit volontiers et la fit souper avec elle, et toutes les deux de bavarder sur celui-ci, sur celui-là, des petites histoires du pays et bien entendu du couvent. Mais à mesure que le temps passait, quel n'était pas l'étonnement de la pauvre égarée de ne pas entendre son hôtesse lui parler de sa propre aventure. « Bonne vieille, lui dit-elle enfin, après une longue hésitation et d'une voix qui tremblait un peu, qu'est donc devenue la sacristine qui servait si bien le moutier? J'ai ouï dire qu'elle a mal tourné. N'a-t-elle pas suivi un musard qui l'a enlevée du couvent ?» « Êtes-vous folle de parler ainsi ?» s'écria l'hôtesse indignée. « Taisez-vous, vous n'êtes pas sage. C'est la folie qui vous mine. Depuis qu'existe le Moutier, jamais on n'a vu sa Christine renier sa foi, comme vous dites. Vous avez blâmé la meilleure, la plus sainte et la plus aimée qu'il y ait jamais eue sur la terre. Encore aujourd'hui, je l'ai vue, j'ai reçu sa bénédiction, et je vous jure par Notre-Dame qu'il n'y en a pas de plus salutaire. Demandez-le aux pauvres gens qui accourent ici de partout pour qu'elle les touche et les guérisse, et laissez vos méchants propos, car si quelqu'un vous entendait, il ne vous adviendrait rien de bon. » Imaginez si la nonna fut étonnée par ces paroles. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Ni comment il se pouvait faire qu'une vieille femme du village pût ignorer sa vilenie. Plus elle pensait à tout cela, moins la chose s'éclairait pour elle. Elle n'en put dormir de la nuit. Aussi, dès que sonnèrent matines, agitée d'un grand trouble et d'une curiosité non moins grande, elle se leva de sa couchette pour aller frapper au couvent. La porte s'ouvrit aussitôt, et elle se trouva face à face avec une femme dont le visage reproduisait le sien en telle perfection qu'elle crut se voir dans un miroir. « Dame, par Dieu, qui êtes-vous » s'écria-t-elle avec effroi en voyant ainsi son image. « Par charité, dites-le-moi » « Vous-même, qui êtes-vous, belle amie ?» lui repartit la sacristine qui lui ressemblait trait pour trait. « Ah, j'ai honte de vous le dire, » répondit la pauvre Atostap. « Je suis celle dont Dieu n'a souci. J'ai perdu Jésus et sa mère. J'arrive chétive et pleurante de l'amour du ciel effacé. Autrefois, j'étais avant vous, sacristine de ce Moutier, lorsque le diable me dévoya. Aujourd'hui, j'en suis bien mariée et ne puis vous en dire davantage. Mais maintenant que vous savez qui je suis, à mon tour, je vous requiers très humblement, madame, de me dire aussi qui vous êtes. » Et l'inconnu lui répondit, « Je suis Notre-Dame, Marie. Tout le temps de ta départie, je me suis fait ton ouvrière, ta servante, ta ménagère. Chacun a cru que j'étais toi, car j'ai observé ton emploi, de porte ouvrir, de sein sonner, et de tes lampes allumées. J'ai pris sur moi ta vilenie, parce qu'autrefois tu m'as servi. Reprends ta place en ce couvent, où nul ne sait ton errement. Je te pardonne ton folage, mais garde-toi de cœur volage. » À ces mots, elle disparut dans un parfum de rose, laissant tomber sur la nonna la robe qu'elle avait portée jadis et qui la revêtit aussitôt de toute l'innocence qu'elle croyait bien avoir perdue sur les mauvais chemins. Ni au couvent, ni au village, personne ne s'aperçut de rien. Comme devant, la sacristine continua de faire des miracles et d'édifier toutes ses sœurs. Mais au divin séjour où tout le monde savait bien pour quelle raison Notre-Dame était descendue sur la terre, anges et archanges firent grande fête à la céleste sacristine quand ils la virent enfin revenir. La communion de la Grive. Je veux vous conter un miracle qui me fut conté à moi-même par un vieux prêtre, ami de saint François d'Assise, auquel l'histoire est arrivée. Un matin de Noël, alors qu'il était jeune encore et vicaire à saint Thomas d'Aquin, il se demanda en s'éveillant quelle bonne action il pourrait faire pour sanctifier cette journée. Et tout de suite s'offrit à ses yeux une maison sordide que la pioche des démolisseurs aurait dû depuis longtemps jeter bas, mais qui, par un défi à l'urbanisme et à l'hygiène, s'obstinait à rester debout au milieu des bâtisses neuves qui l'étouffaient de toutes parts. Là vivait sous les toits, au fond d'un long couloir obscur, une vieille impotente qu'il visitait de temps en temps pour lui porter la communion. Prisonnière dans sa chambre, sans parents, sans amis, elle n'avait d'autre distraction qu'un oiseau de l'espèce qu'on appelle grive musicienne et qu'elle chérissait tendrement. « Que deviendrais-je, monsieur l'abbé ?» disait-elle chaque fois que le vicaire venait la voir, « si je ne l'avais pas. C'est mon petit ami, c'est mon ange gardien. » La porte de la cage était toujours ouverte et l'ange gardien voletait ici et là en liberté. Mais pour aller chez cette bonne femme, il fallait monter 4 étages d'un infect escalier où d'horribles odeurs se succédaient sans se mêler comme autant de barrages dont le dernier semblait encore plus immonde que celui qu'on venait de traverser. Grimper cet escalier quand on était à jeun, et c'était le cas du vicaire, lorsqu'il allait accomplir son office, rien que cette idée-là lui mettait le cœur sur les lèvres. « J'ai tant de choses à faire ce matin, » se dit-il à lui-même pour se donner une raison de remettre à plus tard la bonne inspiration qui lui était venue tout à l'heure. Mais chassant aussitôt sa mauvaise pensée, dès qu'il eut dit sa messe, il quitta la sacristie, emportant avec lui ce qui lui était nécessaire pour communier la paroissienne à l'oiseau. Au bas de l'escalier, les infectes odeurs l'attendaient, et dans l'humide et glaciale obscurité qu'éclairait mal, même en plein jour, des papillons de gaz, elles l'accompagnèrent jusqu'au dernier étage. La tête commençait à lui tourner quand il frappa à la porte de la vieille. « Entrez, monsieur l'abbé » cria-t-elle, car elle l'espérait ce jour-là et l'avait reconnu rien qu'à sa manière de frapper. Après avoir échangé sur le temps, leur santé et celle de l'oiseau, les propos dont il avait l'habitude, le vicaire la confessa, ce qui prit plus de temps qu'on aurait pu l'imaginer, étant donné sa vie recluse. Mais ceux qui vivent seuls finissent par avoir une adresse incroyable à se faire des scrupules à propos de tout et de rien. Encore si cette virtuosité, se disait à part lui l'abbé, tout en se reprochant cette réflexion un peu frivole, encore si cette virtuosité avait quelque intérêt. Mais il faut bien avouer qu'il y a des péchés intéressants et d'autres qui ne le sont guère. Et malheureusement, les pécheurs les plus bavards sont ceux qui n'ont rien à vous dire. Cependant, de faute en faute, de crime en crime et de fil en aiguille, la bonne vieille étant arrivée au bout de son rouleau, le vicaire se mit en devoir de lui donner la communion. Elle était devant lui assise sur sa chaise, car elle ne pouvait s'agenouiller, et déjà le vicaire lui posait l'hostie sur la langue en prononçant les paroles rituelles, quand tout à coup la grive, qui jusque-là s'était tenue tranquille dans un coin de la pièce, se jeta d'une aile rapide sur le pain consacré, en prit un morceau dans son bec et revint se poser sur sa cage. « Jésus-Marie !» cria la vieille en manquant s'étrangler avec le reste de l'hostie. « Elle a mangé le corps de Dieu !» Et oubliant du coup sa tendresse pour la pauvre bestiole, « Il faut la tuer, monsieur l'abbé, il faut la tuer !»« La tuer ? Y pensez-vous ? » répondit le vicaire. « Tuer cette pauvre bête du bon Dieu juste au moment où elle vient de voler vers son Créateur et de faire sa première communion ?» Et jetant les yeux sur la cage, que la concierge qui rendait de menus soins à la paralytique avait sans doute oublié de garnir ce matin, « Cette bête a faim, » reprit-il. « Après ce festin spirituel, donnons-lui quelque nourriture terrestre. Je vais et je reviens. » Il sortit et reparut quelques instants plus tard avec du mil, du chènevis et quelques feuilles de salade. « Et voilà le miracle, » ajoutait-il en finissant. « Ni ce jour-là, ni jamais plus, je n'ai senti l'odeur de l'escalier. » Lecteur, tu demandes peut-être où est la Vierge dans ce conte. Je te réponds, elle est partout où est la poésie. »